A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
BFM Business, BFM Crypto, le club.
Chaque jour, le club BFM Crypto pour évoquer cet univers des cryptoactifs particulièrement convulsif en ce moment. On a vu cette chute à nouveau ce week-end des cours d'un certain nombre de cryptos.
Les membres du club crypto de BFM Business vont pouvoir reprendre enfin un peu leur souffle après un début d'année catastrophique. Depuis plusieurs semaines, le Bitcoin navigue autour des 20 000 $, un coup au-dessus, un coup en dessous. La remontée des taux aux États-Unis dans un contexte d'inflation, les craintes de récession et le retour de l'aversion au risque des investisseurs ont provoqué un vent de panique sur les marchés financiers, un scénario classique pour les actions, mais qui n'a pas épargné les crypto-monnaies, mais également un autre type d'actifs virtuels euphoriques jusqu'ici, les NFT. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Aujourd'hui, on va s'intéresser au monde surprenant et parfois un peu nébuleux des NFT, les jetons non fongibles, ces actifs numériques uniques que les collectionneurs s'arrachent, mais aussi les financiers, pour le meilleur et en ce moment plutôt pour le pire. Le rap à la sauce Saturday Night Live. Pouvez-vous s'il vous plaît m'aider à faire un NFT, chante un clone d'Eminem dans une salle de cours en présence d'un sosie de Janet Yellen, secrétaire d'État au Trésor et ex-gourou de la Fed. Je n'ai rien compris à ce que vous avez dit, lui fait remarquer le prof, et c'est pas un compliment. Les NFT, est-il encore besoin de le préciser, ce sont ces actifs numériques non fongibles. Chaque NFT est unique, ce qui lui confère donc une valeur sinon sentimentale, du moins pécuniaire. Et de la valeur, certains NFT en ont pris, notamment dans le monde de l'art. Mais ça, c'était avant. À l'instar des crypto-monnaies, les NFT n'ont pas été épargnés par l'éclatement de la bulle spéculative sur les marchés. Pour en parler, j'ai invité Nessim Haït Kassimi à me rejoindre dans le studio des Échos. Bonjour Nessim.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au service marché des Échos, spécialiste d'échanges et des fonds spéculatifs. Alors d'abord, comment se porte le marché des NFT dans ce contexte de crise boursière et financière ?
Alors, il n'échappe pas à la crise boursière et financière. Elle est assez marquée quand même dans le secteur des cryptos depuis la fin du mois de novembre. Et effectivement, on constate que les NFT n'échappent pas du tout à cette espèce de morosité ambiante et ne jouent pas une sorte de rôle de diversification au sein de cette classe d'actifs nouvelle.
Ah, il y a un signe qu'il y a quelque chose de pourri au royaume des cryptos et des NFT. Certains produits très demandés ces derniers mois ont vu leur prix chuter d'un tiers. Et selon Bloomberg, l'indice JPG NFT, qui suit une poignée de projets de NFT de premier plan, bien cet indice a baissé de plus de 70% depuis sa création. En avril, ça souffle fort sur le secteur. Par ailleurs, toujours selon Bloomberg, les NFT ont enregistré moins d'un milliard de dollars de ventes en juin, une première depuis un an, le signe qu'il y a peu de vendeurs, mais les acheteurs visiblement se font aussi plus rares. Depuis la fin 2021, le nombre d'acheteurs de NFT de toute catégorie oscille entre 500 000 et 1 million par trimestre. Alors Nessim, qui sont d'ailleurs les acheteurs de NFT et pourquoi dépensent-ils parfois beaucoup d'argent pour ces actifs virtuels ?
Il y a quand même beaucoup de profils très variés. Alors, il y a un petit peu les particuliers qui sont intéressés par ces nouveaux placements ou de manière peut-être plus, on va dire, épidermique parce qu'ils sont tout simplement intéressés par les personnages. Vous avez aussi des collectionneurs d'art et des professionnels. Vous avez des traders, vous avez des fonds d'investissement, ils commencent à s'en créer quand même quelques-uns. Et puis, vous avez en fait après toute la gamme un peu des spéculateurs de plus ou moins grande taille. Alors, on constate quand même que les NFT sont très populaires au sein même du secteur des cryptos. parmi toutes les personnes qui travaillent dans ce secteur. Ils peuvent y voir, eux, un moyen de diversification, un moyen de se créer leur propre collection. Et puis, bien évidemment, au sein du secteur de la tech, on va dire, au sens large.
Ouais, c'est vrai que, de toute façon, les NFT, la plupart du temps, s'achètent avec des cryptos. C'est un peu la monnaie utilisée pour ça. Alors, il y a des acquéreurs encore, mais un petit changement quand même. Ils n'achètent plus n'importe quoi.
Alors, peut-être encore un peu trop tôt pour le dire, parce qu'il y a quand même toujours des mouvements spéculatifs assez marqués. Mais on a vu quand même que des NFT qui avaient été achetés pour des sommes absolument folles ne parviennent pas du tout à revendre quelques mois plus tard. Alors, à mon avis, il est quand même peut-être un peu trop tôt pour dire que la vague spéculative est arrêtée, et ce d'autant plus que ce secteur continue à bénéficier d'une sorte de battage, on va dire, assez important de la part d'influenceurs, de stars, de vedettes du cinéma ou de la chanson.
Oui, on va y revenir hein, sur le poids de ces influenceurs. Mais ce qu'on constate quand même, c'est qu'il y a d'énormes différences aujourd'hui entre les collections et à l'intérieur des collections.
Oui, alors il y a quelques, on va dire, personnages, entre guillemets, fétiches qui disposent de caractéristiques qui sont très prisées de la part des acheteurs. Vous savez qu'il y a une forme de rareté qui est créée au sein des collections. Vous avez des personnages finalement qui se ressemblent. Et puis quelques-uns, un petit peu comme dans nos anciennes cartes de collection, qui disposent de caractéristiques. Alors, quand c'est des personnages, ça peut être la couleur des cheveux, l'habit, des traits un petit peu physiques. Et ces cartes sont extrêmement recherchées. Et elles sont généralement acquises par des personnes qui ont quand même des moyens importants, parce qu'on peut voir des sommes extrêmement importantes mises sur la table pour acquérir ces cartes de collection numérique.
Arnessim, selon une étude dont vous parlez dans un de vos articles, on peut voir quand même que sur 410 collections représentant 1 300 000 NFT, seulement 3,6% génèrent plus de 100 millions de dollars de vente. Il y a énormément d'images disponibles, mais toutes ne marchent pas. Qu'est-ce qui fait la valeur d'un NFT, Nessim ?
Déjà, est-ce que c'est aussi l'œuvre sous-jacente sur laquelle il porte ? Est-ce que c'est le fait que ce soit une part aussi d'un projet, parce qu'on peut le voir notamment dans le métaverse ou dans les jeux, c'est aussi un moyen après d'accéder dans des mondes nouveaux où il y a une sorte de valeur marchande. Donc c'est quand même très dépendant en fait du projet sous-jacent et puis de la caractéristique du produit. Après, dans le cas des NFT artistiques, ça reste quand même assez subjectif. Qu'est-ce qui peut dire que un CryptoPunk numéro 999 et vaut plus qu'un 998, ça, objectivement, c'est un peu une forme de spéculation et de relation un peu entre l'offre et la demande.
Vous parliez du CryptoPunk, c'est l'une des stars des NFT, quels sont les autres ?
Alors après, ce sont les fameux singes numériques du Borept Yacht Club, qui sont en fait une collection qui a bénéficié en fait du soutien de beaucoup de stars, que ce soit des rappeurs, et ce sont des personnages qui en plus ont réussi à créer autour d'eux toute une sorte de réseau social assez influent et qui a beaucoup d'impact, on va dire, sur leur notoriété.
Alors, des singes, il y a aussi des chats. Ça veut dire que les représentations d'animaux, globalement, sont les plus recherchées aujourd'hui ?
Peut-être pas nécessairement. On voit dans le domaine des mangas des personnages qui commencent aussi à avoir un certain succès. Mais après, on peut estimer aussi que ça reste peut-être la partie la plus ludique des NFT, c'est-à-dire le côté spéculation artistique. Elles peuvent aussi ouvrir sur d'autres projets et surtout peut-être déboucher sur des futurs nouveaux marchés. Je pense au métaverse, qui est quand même un domaine qui suscite un grand intérêt, on va dire, de beaucoup d'entreprises.
Certaines de ces images ont même atteint des sommes folles. À l'image de l'alien CryptoPunk 5822, acheté en février pour 8000 Ethers, autrement dit, plus de 23 millions de dollars à ce moment-là. Son propriétaire vient de le remettre en vente pour 9000 Ethers. Sauf qu'au cours actuel, ça ne représente plus que 10 millions de dollars. La chute des cryptos est passée par là. Dans les crypto-monnaies, il y a le roi Bitcoin et les princes Ethereum et Ripple. Quelques cryptos, on le voit, se partagent l'essentiel du gâteau. C'est aussi le cas pour les NFT. Et entre leurs créateurs, leurs propriétaires, la bataille fait rage.
Oui, parce qu'il faut qu'il y ait des NFT, enfin jusqu'à une période récente. Là, il y a quand même peut-être un peu moins de demandes, mais ils sont créés tous les jours. Donc, il faut se distinguer dans la jungle, on va dire, du marché et se faire connaître. Alors, se faire connaître, ça nécessite d'avoir des soutiens, des influenceurs. Il faut aussi que ça débouche quand même sur un certain avantage. Après, vous avez dans le domaine artistique des artistes qui vont essayer après de monnayer leur œuvre ou peut-être d'explorer des nouvelles voies de création avec l'utilisation justement de cette technologie. On peut pas dire, après, on ne sait pas comment le marché de l'art lui-même va évoluer et si, on va dire, la domination numérique va devenir significative, essentielle à terme. On est encore un peu dans l'incertitude là-dessus.
Pas besoin de vous rappeler qu'il y a encore quelques mois, tous les faux gourous du business sur YouTube parlaient des NFT comme le nouvel Eldorado et la nouvelle façon incroyable de se faire de l'argent facile et rapidement. Mais tout ça, c'était avant parce qu'il semble que l'intérêt pour les NFT est totalement retombé comme un soufflet. Pour preuve, ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu un influenceur essayer de vous refourguer un NFT ou un projet similaire qui ressemble à une blague de mauvais goût ?
Ouais, on l'a compris, Olivier G, sur sa chaîne YouTube Worketing, n'est toujours pas fan des NFT. Il appuie sur le rôle des influenceurs. Ils ont un impact sur les cours, Nessim ?
Alors, certains peuvent l'avoir. Alors, la question des influenceurs est aussi de savoir est-ce que ils sont transparents sur le fait qu'ils sont rémunérés par certains créateurs ou par certains projets. Ce n'est pas toujours le cas, mais il est vrai qu'ils ont quand même eu une influence quand même assez marquée, on va dire, sur le succès de certaines collections. Et à l'inverse, quand ils s'en détournent, ça peut être aussi un signe que les spéculateurs intègrent eux-mêmes dans leurs décisions en se disant que justement, ils vont eux-mêmes se détourner de cet actif.
En 2021, ils ont été très actifs, surtout sur les réseaux sociaux. L'an dernier, le nombre de tweets sur les NFT a été de 375 millions, ça fait plus d'1 million par jour, supérieur aux messages portant sur les cryptos. Un buzz qui a contribué à la popularité de ces objets virtuels, d'autant que de nombreuses stars ont popularisé ces produits, à l'image de Jay-Z, Serena Williams, Snoop Dogg, Paris Hilton, Neymar, Eminem ou encore Madonna. Même CR7, alias Ronaldo, met des billes sur ce créneau, Nessim.
Ah oui, alors il s'est associé avec la plus grande plateforme au monde, Binance, qui elle aussi, comme beaucoup, veut s'élancer dans le business des NFT. Et c'est vrai que le domaine des cartes, entre guillemets, numériques sportives, je pense à Sorare, a connu un fort engouement, on va dire, de la part des collectionneurs et puis aussi des fans qui aiment bien à la fois investir, spéculer et s'échanger justement des NFT sur les plus grands joueurs de foot.
Ouais, sur le jeu Sorare, une carte de Ronaldo a récemment été mise en vente pour plus d'1 million d'euros. Alors, je ne sais pas si elle a trouvé preneur. On peut quand même s'inquiéter ou en tout cas faire attention aux effets de mode.
Aux effets de mode, oui. Et puis surtout, problématique de manipulation de cours, d'arnaque qui commence à être mise en lumière par quelques affaires qui commencent à émerger aux États-Unis et sans doute bientôt en Europe. Ces actifs ont bien évidemment, avec leur succès et leur potentiel, ont attiré toute une série d'escrocs, soit de personnes qui créent des NFT sans l'autorisation des créateurs des œuvres. Vous avez aussi des gens qui manipulent les prix. Vous avez une première affaire de délit d'initié qui s'est passée aux États-Unis. Ça, c'est exactement ce qui s'est produit avec les cryptos au début. C'est qu'elles ont attiré aussi assez vite toute une série d'escrocs qui pensaient que justement leur nature plus dérégulée, plus ouverte, pouvait justement leur permettre d'engranger des profits élevés, ce qui n'est pas faux, hein, ce qui n'est pas faux du tout au début. Mais rapidement, en fait, les régulateurs se sont quand même intéressés de près à ces nouveaux marchés.
Ils ont envahi le monde de l'art, du sport, des jeux vidéo et bientôt du commerce. Fin juin, l'Olympia a lancé une série de NFT appelée The OGs. 250 NFT seront mis en vente. Certains donneront accès à un concert gratuit par an et à vie. Un autre plus rare accordera un pass permettant à 2 personnes d'assister à 12 concerts par an. On le voit, les créateurs de NFT rivalisent d'ingéniosité pour se distinguer sur ce marché en plein développement. Mais il est une autre catégorie d'acteurs particulièrement créatifs lorsque l'on parle des cryptoactifs, ce sont les escrocs. Bonjour Benoît Grunemwald.
Bonjour.
Vous êtes expert en cybersécurité chez EZ France. Le marché des NFT a connu une progression rapide, dingue, effrénée, avec, comme pour les crypto-monnaies, une explosion aussi des arnaques.
Effectivement, les cybercriminels suivent les tendances. On le voit pour les grands événements tels que les Jeux Olympiques, par exemple, ou les concerts. On l'a vu pour la crypto-monnaie et les NFT ne font pas exception à la règle. Et les cybercriminels s'engouffrent, suivent les tendances pour faire ce qu'ils savent malheureusement bien faire, c'est-à-dire gagner de l'argent, gagner leur vie.
Vous avez constaté une progression justement des attaques ?
Oui, bien sûr. Le volume d'attaques est proportionnel à la notoriété et à la valeur des NFT, qui fait que les cybercriminels s'y intéresse très très fortement.
Je suis agent d'entretien. Les œuvres d'art que je nettoie. Vendredi prochain, ils vont vendre un colis aux enchères. On va le voler. Vous entrez balayeur et vous sortez millionnaire. Des questions ?
Voler un tableau dans un musée, c'est compliqué, sauf à s'appeler Arsène Lupin. C'est compliqué de voler des NFT ?
Voler la NFT en elle-même, ça voudrait dire, par exemple, s'attaquer à la blockchain, ce qui là est compliqué. Par contre, emmener l'utilisateur sur un terrain où on va lui voler sa NFT, ça, c'est malheureusement plus simple parce que l'on va utiliser des techniques qui sont celles que l'on utilise, que l'on voit habituellement pour toute autre forme d'hameçonnage, d'arnaque, et on va emmener l'utilisateur vers un terrain qui est celui du cybercriminel.
C'est vrai que la blockchain, c'est ce qui garantit finalement le droit de propriété sur ces produits un peu uniques. Mais on peut effectivement se faire... C'est comme si on se faisait voler son image de Panini à la récréation. On peut là aussi vous priver de cette propriété de la carte ?
Complètement. On ne va pas l'usurper, bien que certains aient essayé. C'est assez compliqué. On va surtout vous hameçonner, vous emmener à divulguer notamment les clés secrètes qui font que vous êtes le propriétaire du dit NFT. Et en vous volant ces clés secrètes, eh bien, vous perdez d'office la propriété de cet NFT.
On sait que les escrocs du net sont particulièrement réactifs lors d'événements importants. Hein, vous le disiez, une guerre, un désastre climatique, la sortie de photos soi-disant osées de telle ou telle star du cinéma ou de la chanson. Pour les NFT, c'est à la mort d'un artiste, par exemple, que les escrocs peuvent se dévoiler ?
Malheureusement, des événements funestes sont toujours l'occasion pour des escrocs d'attirer l'attention de leurs cibles, et notamment la mort d'un artiste ou la guerre en Ukraine sont des supports qui attirent un grand nombre de personnes et donc potentiellement un grand nombre d'arnaques potentielles pour les cybercriminels.
Vous avez un exemple récent ?
Oui, malheureusement, la guerre en Ukraine a été le support de création de faux NFT et en soutien aux populations ukrainiennes, eh bien, il y a eu notamment des dons qui ont été faits sur des faux NFT ou des NFT qui n'avaient pas vraiment de valeur ou dont les dons n'allaient pas aux Ukrainiens.
Il y a aussi l'exemple de l'artiste numérique King Han, décédé en 2020 d'un cancer. Son frère s'est rendu compte quelques mois plus tard que des escrocs avaient pris son identité pour vendre des NFT à l'image de son travail.
Surfer sur la mort d'un artiste permet de générer une notoriété suffisante pour toucher un grand nombre de personnes et donc avoir une chance de retour sur investissement, parce que c'est aussi le cas pour les cybercriminels. Ils cherchent le retour sur investissement et ainsi de pouvoir maximiser leur chance de toucher des victimes.
Parmi les arnaques, il y en a une qui se développe pas mal, c'est les imitations à l'image du site frauduleux de Banksy.
Oui, vous avez des cybercriminels qui sont peut-être plus portés sur l'art que d'autres et qui vont sentir les tendances et créer des faux. D'ailleurs, dans le marché de l'art, la création de faux est quelque chose qui est aussi vieux que l'art lui-même et les NFT n'échappent pas à la règle. Il existe des faux qui sont dispensés par ces cybercriminels qui suivent encore une fois la tendance.
Ouais, le risque étant d'avoir payé parfois cher pour des NFT qui n'auraient dès lors plus beaucoup de valeur.
Les personnes qui organisent et qui souhaitent que le marché des NFT prospère, eux aussi créent des alliances pour répertorier quels seraient les sites et ou les montages NFT ou crypto qui ne seraient pas valables ou pérennes.
Quelles sont les arnaques les plus courantes dont il faut se méfier ?
Eh bien, les arnaques les plus courantes, ça va être le vol de la propriété des NFT. Ça passe beaucoup par l'utilisation de publicités et ou de messages sur les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux sont un support très fort pour diffuser ce type d'arnaque. Et ça passe aussi par des logiciels malveillants qui vont s'immiscer dans nos ordinateurs et ou sur nos smartphones. Un petit peu comme on a des logiciels qui sont des chevaux de Troie bancaires et qui vont tenter d'usurper notre identité sur des banques classiques. Eh bien là, ces logiciels vont essayer de pénétrer dans nos portefeuilles qui stockent les NFT et nous voler soit leur accès, soit les fameuses clés privées qui font que l'on est propriétaire de la NFT.
Est-ce que vous dites qu'il faut faire attention notamment aux faux profils sur les réseaux sociaux?
Il faut faire attention aux faux profils et il faut faire attention aux vraies fausses publicités qui pourraient vous emmener soit sur des projets faux, soit sur des sites web qui, eux, vous amèneront à contacter des cybercriminels.
Alors, il y a une escroquerie aussi appelée le tapis tiré. Qu'est-ce que c'est?
Alors, cette escroquerie est une escroquerie qui va emmener l'utilisateur sur une action NFT, une création de NFT. Et au moment où l'utilisateur va commencer à investir, eh bien, la NFT va disparaître et l'utilisateur aura investi à perte dans quelque chose qui n'existe pas.
Oui, quand on retire le tapis, généralement, on tombe, on se casse la figure. Autre escroquerie, vous parlez des escroqueries aux enchères. On est un peu dans le même ordre d'idées?
On est complètement dans le même ordre d'idées. D'une manière générale, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est qu'il y a anguille sous roche. Quand, par exemple, on a l'occasion d'acheter une copie, une fausse NFT, une copie de NFT, eh bien, dans ce cas-là, généralement, si le prix est trop attractif, c'est qu'il y a un problème et qu'il faut se poser la bonne question.
Il y a une autre technique sur les marchés financiers dont le nom est assez évocateur, l'escroquerie par pompage et vidage. On a un peu l'impression d'être chez le plombier.
Mais il n'est pas passé le plombier.
Bah non, il attend lui aussi.
Ah, moi je peux rien faire si le plombier n'est pas passé. Bon.
Non mais il ne vient pas.
Ah bah écoutez, vous avez qu'à lui dire de se presser un peu. Moi, je fais pas l'électricité avant le sanitaire, comprenez-vous?
Ouais. Oui, bah écoutez, il vient pas avant 15 jours.
Ça nous reporte en juin, ça.
De quoi s'agit-il?
Alors, c'est une escroquerie qui est malheureusement très courante où vous allez initier un nouveau NFT, créer une bulle, et une fois que cette bulle est assez haute, eh bien, vous allez stopper, arrêter la bulle, et finalement, ceux qui ont investi, eh bien, ont investi au profit des créateurs, mais eux n'ont pas de retour sur investissement parce qu'en fait, derrière, il n'y a rien.
Ouais, on est sur de la manipulation avec notamment on va dire, la complicité plus ou moins volontaire de certains influenceurs.
Effectivement, certains peuvent se faire embarquer contre leur gré dans certaines opérations qui sont à vocation cybercriminelle. Certains peuvent aussi se faire pirater leurs comptes. On a déjà vu des comptes d'influenceurs qui ont été pris d'assaut par des cybercriminels qui ont posté des messages invitant à aller rejoindre telle ou telle initiative qui en fait n'était à la fois pas postée par l'influenceur ou la personnalité, mais qui emmenait vers des liens cybercriminels.
Quels sont les ressorts de ces escroqueries? Pourquoi est-ce que les gens se laissent prendre? C'est la naïveté, l'appât du gain?
Alors, c'est une concordance de mauvais éléments. À la fois, il faut comprendre que les cybercriminels, pour vivre, doivent réaliser ces arnaques. C'est leur gagne-pain. Donc, ils sont très forts dans la manipulation. Ils sont de très fins psychologues et ils arrivent à déterminer chez nous ce qui va nous permettre de sauter le pas, même si ça nous semble très gros, même si dans la vie réelle, on pourrait se dire que la personne que l'on a en face de nous raconte quelque chose qui est invraisemblable et que l'on ne va pas céder à cette arnaque. Eh bien, eux arrivent par différents moyens à nous emmener dans leurs arnaques, effectivement, nous en croire qu'on va réaliser une plus-value financière énorme, que l'on peut devenir célèbre, que l'on peut devenir riche. Enfin, tous les mécanismes qui nous permettent de flatter notre ego et ou de nous emmener sont activés par les cybercriminels.
Benoît Grunemwald, un accord a été trouvé au niveau européen pour mettre un peu de régulation dans le monde des cryptoactifs. Il s'agira notamment de tracer les transferts de fonds liés à ces produits pour protéger notamment les consommateurs. Sauf que beaucoup de NFT pourraient être exclus du champ d'application de ce règlement qui s'appelle MiCA. Qu'est-ce que vous en pensez?
Le marché aujourd'hui de la NFT est un marché qui est en pleine croissance, qui est émergent. De la régulation va certainement aider à la fois les créateurs, à protéger les créateurs, mais également à protéger ceux qui spéculent et ou qui achètent sur ces marchés. Pour autant, la sensibilisation des utilisateurs reste le point le plus important. Parce que même si vous régulez, vous aurez toujours un cybercriminel qui va vous dire « sors du marché officiel et viens sur ce petit marché, tu vas voir, tu vas gagner énormément d'argent. Et au final, la régulation va servir certainement au plus grand nombre, mais il y aura toujours l'appât du gain et ou d'autres appâts à côté qui marcheront. Donc, il faut quand même sensibiliser les utilisateurs qui souhaitent aller sur le marché.
Pour en savoir plus sur ce projet de régulation, je vous renvoie vers l'article de Laurence Boisseau dans Les Échos. Merci Nessie Maïd-Kessimi des Échos et merci Benoît Grunemwald, expert en cybersécurité chez EZ. J'en profite pour vous rappeler que tous les mardis à 12h30, vous pouvez retrouver l'actualité du Web3 dans la newsletter Les Échos du Métavers, pilotée par Samir Touzani et Thomas Pontiroli. Cet épisode de la story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.